Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Et dorénavant, Pulps est aussi ouvert le lundi. Bonjour à tous et bienvenue sur le 183e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 20 février et ce soir au programme du DC avec la suite de Forever Evil dans les pages de Justice League, du Batman ou du Harley Quinn. Nous parlerons aussi de l'indé avec du X-Files, du Valiant, Quantum et Woody et Unity, mais aussi du Image. Et enfin chez Marvel, la nouvelle série New Warriors, la suite de Nova, la fin de Daredevil ou encore Avengers World et bien sûr, vous retrouverez les TPB en fin d'émission. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir pour vous parler de tous ces nouveaux comics fraîchement sortis, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Flo.
Bonsoir les amis, bonsoir chers auditeurs.
Et Mister Ebony.
Bonsoir les gens.
Est-ce qu'ils sont bons?
Les gentils?
Non, les gens bons, voilà.
Oh,
c'était, franchement, tu peux pas faire plus simple, hein.
Et tu peux pas faire plus mauvais aussi.
Mais
hein,
je mets un point d'honneur à ouvrir avec des vannes vraiment foireuses.
Je vais essayer de relever le niveau, mais
en plus, moi je t'aide vachement en plus. Ouais. Moi je t'aide beaucoup en plus.
Non, mais on notera que tu n'as même pas compris cette vanne honteuse de 6ème. De 6ème, de CP, que dis-je, de CP.
Tu sais, on dirait le prof qui rentre dans la classe pour détendre l'atmosphère, qui dit à ses élèves est-ce qu'ils sont bons? Les gens bons.
Est-ce que c'est de faire de la charcuterie toute la journée?
Il y en a qui sont morts pour moins que ça, maintenant.
On va démarrer avec DC, et c'est du même niveau, puisque nous allons parler...
Ça tombe bien, quelle belle transition.
De Justice League numéro 28, Bruno.
Ah,
Bruno,
oui,
c'est à toi.
Oui, c'est écrit par... Ouais, c'est écrit par Geoff Johns. C'est dessiné par Ivan Reis. Enfin, les layouts sont faits par Ivan Reis. Et au niveau des finishes, c'est Joe Prado et Scott Hanna. Donc on poursuit l'aventure de Cyborg qui arrive chez le docteur Magnus et qui veut à tout prix lui demander de réactiver les Metal Men. Donc on a droit en fait à un flashback qui nous explique un petit peu qui est le docteur Magnus et quelle est l'origine de ses travaux sur les Metal Men et est-ce qu'ils ont déjà été activés avant. Donc voilà, c'est un flashback assez long que j'ai trouvé un petit peu poussif. Bon, voilà, et tout ça pour voilà, est-ce que Cyborg a besoin d'avoir une nouvelle équipe? Donc voilà, mais c'était vraiment laborieux, je trouve cette lecture. C'était
Justice
très
League
joli.
AI est la prochaine série de DC.
Non, mais c'était joli. Il y avait des idées intéressantes. On retrouve les Metal Men un petit peu, les Metal Men classiques avec leur caractère bien trempé.
Ah bon, classique. Je sais pas où t'as vu du classique, toi. J'ai vu tout sauf du classique, moi.
Disons que t'as déjà lu, au fait, un épisode avec des Metal Men.
Oui, j'ai déjà lu un petit peu avec des Metal Men, mais
oui,
disons qu'ils ont chacun leur caractère.
Justice League 18 et 19 ne comptent pas, Bruno.
Oui, mais alors justement, il va falloir m'expliquer, parce que Justice League 18 et 19, j'arrive pas du tout à le placer dans la continuité, mais faut m'expliquer, parce que on a déjà vu Platinum, effectivement, et je vois pas quand est-ce qu'elle a pu être utilisée...
Mais oui.
Enfin, ils étaient bizarres d'ailleurs,
mais
ces
oui.
épisodes.
Mais
le mini arc avec le premier numéro, le 18, dessiné par Jesus Saez, où ils se rassemblent tous pour.
Ouais.
Où il y a tous les nouveaux de la Justice League.
Mm-hmm. Ouais.
De même de toute façon, ça correspond avec ce qu'on disait la fois dernière quand on parlait des 48 heures. Et la question qui nous a été posée dans les commentaires, où est-ce qu'on avait vu les 48 heures qui sont écoulées depuis le début de Forever Evil et que c'était écrit au tout départ, alors que dans toutes les autres séries, il s'est passé au moins des semaines. Je vous rappelle que Geoff Johns est Chief Creative Officer.
Mais pour Platinum, c'est pas du tout logique, on comprend pas du tout. Enfin bon. Voilà, après, moi j'ai trouvé ça chiant, quoi.
Oui, bah oui. Flo, vas-y, je t'en prie.
J'ai un peu de mal, j'ai du mal parce que. On sait que Geoff Johns est un peu amoureux du Silver Age et un peu des concepts bariolés et tout. Mais là, c'est juste. quand à côté je lis de l'indé ou des séries plus sérieuses et tout, j'ai vraiment du mal à... Bon, il y a des bonnes idées avec les Metal Men, mais j'ai du mal avec leur look. Je sais pas, je trouve ça la... enfin, un peu... un peu enfantin. Je sais pas, j'arrive pas à rentrer dedans, quoi. Je sais pas vous, mais j'ai trouvé le truc un peu...
Moi, j'ai trouvé tellement d'incohérences dans ce numéro que et je parle même pas d'incohérence de continuité. Je parle juste d'incohérence par rapport à ce qui nous est raconté dans cet épisode même. Je veux dire, le Metal Man qui sort et qui dit qu'il a envie de regarder de la WCW, mais ça a été programmé dans son responso mes couilles, là?
Oui, toutes les répliques, les personnalités des Metal Man, il y a des trucs un peu rigolos, mais c'est vraiment...
Je pensais que t'allais dire, Steve, tu sais, ouais, mais la WCW, mais ça existe plus depuis les années 90. Donc ça veut dire que ça se passe dans les années 90.
C'est impossible. C'est même pas ça qui me... Enfin, oui, déjà, mais c'est même pas ça qui m'a gêné le plus. C'est d'où il peut sortir cette référence. Ouais, il est censé venir poétique, d'être quoi. Créé. Alors, où il y a un con de programmeur qui a foutu ça dans le
bah ouais, je pense
que c'est un easter egg. C'est un easter egg. Ouais, enfin... C'est un Konami code.
Enfin, voilà, il y a leur personnalité... sortent de nulle part. Alors, je veux bien qu'ils aient pris un peu de bout de personnalité du métal qu'ils ont. Ça a toujours été la base des Metal Men, d'accord. Mais toutes les références qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent les avoir, ces références?
Non, mais je trouve le concept logique. Ouais, je trouve. Enfin, en fait, je trouve le concept des Metal Men un peu pérave. Voilà, je vais le dire, je l'assume. Je trouve ça un peu pérave, trop Silver Edge, trop over the top, quoi. En fait, pour que ça soit. Pour que ça passe dans
alors,
un truc aussi
la traduction,
sérieux,
ça veut dire périmé.
Aussi sérieux et aussi sombre que Forever Evil, en fait. Ça dénote totalement ce truc. Et puis, honnêtement, bon, les looks, bon, je suis pas fan des looks, mais toujours la même nana avec les gros seins et puis la taille de 4 cm de tour de taille. Et elle a même des talons compensés. Le robot, il a des talons compensés. Faut oui, pas déconner, quoi.
Comment tu peux juste être créé et t'imaginer te faire une armure? Je veux dire, les Metal Men du Silver Age étaient tout lisses, quasiment, sauf pour Iron où il avait un petit peu de machin. Mais là, ils auraient dû sortir lisses au lieu de se créer des armures comme ça. Ça non plus, c'est pas logique, c'est totalement incohérent.
Bah ça manque de la vision, manque de modernité, quoi. Ça fait terriblement années 90 mélangé à du Silver Age, c'est-à-dire des corps musculeux ultra sexués. Je trouve ça ringard, en fait, vraiment ringard.
Ouais, mais enfin moi ça m'a moins choqué que vous, parce que je trouve que Geoff Johns, il a souvent fait ça, en fait. Il a souvent ressorti des personnages tels quels pour les mixer à ce qui se fait aujourd'hui. Bah, j'ai pas trouvé ça catastrophique non plus, quoi. Moi perso, c'est vrai que c'est un peu long. Un petit peu long à lire, je les ai trouvés assez touchants, moi, les Metal Men. Enfin, je veux dire, voilà.
J'ai pas trouvé l'histoire mauvaise, j'ai juste trouvé trop d'incohérences pour arriver à rentrer pleinement dedans et me laisser porter par l'histoire. La vision du général, la vision look que quand le général les regarde, le look qu'ils ont, c'est voilà le look qu'ils auraient dû avoir. Point. Pas plus. Ils auraient pas dû avoir cette espèce de look tel qu'on les voit la première splash page, quoi.
Oui, ouais. Moi ça m'a pas dérangé. J'ai fait abstraction de ces considérations. J'ai pas pensé à ça. Il y a quelques trucs qui m'ont fait marrer.
Chacun les voit à sa façon.
Le Metal Man qui tombe amoureux d'une petite machine à soda.
Oui, c'est assez drôle. Ouais, c'est vrai.
Voilà. Bon, moi perso, j'ai pas détesté, quoi. Voilà.
Bon, visuellement, c'est quand même pas mal du tout. Hein. C'est vraiment très joli. Je veux dire, si c'est que des layouts de Devon Reese, enfin, Joe Prado et Scott Hanna se débrouillent très bien.
C'est très joli.
C'est très beau. Il y a quelques trucs assez drôles.
Voilà,
l'histoire se lit.
Et...
Enfin, j'ai trouvé que l'histoire se lisait plutôt bien. Moi, j'ai pas trouvé l'histoire désagréable. C'est juste que j'accroche pas du tout au concept des Metal Men, quoi. Ils sont même, c'est vrai, assez touchants, surtout sur la fin, ce qui leur arrive. Voilà, c'est assez touchant, mais je trouve le concept ringard.
Mais la question, c'est à quoi ça sert, en fait, tout ça?
Bah,
pourquoi est-ce qu'on nous a collé ça?
Allez, ramener, c'est tout.
Enfin, en fait, ce que il y a peut-être une surprise derrière, si tu veux, parce que comme bon, enfin, on va pas révéler, mais bon, à la fin de ce numéro, voilà, ils vont ramener les Metal Men, mais comment, enfin, et si ça se trouve, ce numéro est fait exprès avec une vision très très Silver Age et un look très Silver Age, et ils vont revenir avec des choses très différentes. Tu vois, je sais pas, moi j'espère, parce que je suis pas contre les Metal Men, mais pas comme ça, quoi. Ça me plaît pas, ça m'intéresse pas. Voilà.
Ouais. Non, mais.
Vous avez tué, désolé.
Non, mais ça fait partie de cette logique de Forever Evil qui ramène tous les vieux concepts de DC, en espérant que ça vendra peut-être un peu plus et que ça fera revenir les vieux lecteurs qui ont déserté le navire quand ils ont vu la catastrophe qui était les New 52. Parce qu'on va pas se le cacher, coup, là, c'est une catastrophe.
Ouais, mais ça fait beaucoup trop de personnages qui étaient demandés par les fans qui arrivent sur même pas deux mois.
Mais oui, Doom enfin, là, Patrol, les... Metal Man.
Là, les vieux lecteurs, ils te font une apparition de Kemo qui sert à rien, qui est pas un super méchant, mais bon, il a deux pages, on voit pas trop, on comprend pas tout d'où il vient et tout. J'ai trouvé ça ridicule. Et ouais, non, c'est vrai qu'ils vont nous faire revenir Wally West, ils vont nous faire revenir Stephanie Brand, tout en même temps. Et voilà, ils veulent à tout prix trouver une solution.
Ils voient bien que les gens désertent le navire,
C'est un peu trop forcé.
C'est ça. Enfin, je suis pas certain que ramener les Metal Men, c'est été très demandé par énormément de gens. Quoi,
non, mais c'est pour attirer les vieux lecteurs.
Les vieux lecteurs. Mais là, c'est des lecteurs de 70 ans, quoi.
Mais DC a toujours eu un public un peu plus âgé, on le sait. Public
mais là,
qui a déserté
là,
en voyant les New 52 arriver, en voyant que ça devenait plus enfantin, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, mais plus...
Non, mais si tu veux, Wally et Stephanie Brown, ils ont disparu avec les New 52. Les Metal Men, ils ont disparu il y a très très longtemps.
Non, ils avaient eu une série dans les deux années.
C'était confidentiel. Oui, non, mais d'accord, mais c'était des petites apparitions. Ils n'avaient pas un titre régulier qui marchait du feu de Dieu.
Non,
avant
c'était une mini, je crois, en 2008, 2009, quelque chose comme ça.
Ouais, bah tu vois, mais tout le monde a oublié ça, quoi.
Bah, on ramène Adam Strange aussi, hein, avec Jeff Lemire pour la Justice League United.
En tout cas, moi, je suis très déçu par Jeff Jones dans le sens où j'aurais aimé qu'il y ait une petite référence aux événements du Justice League 18-19 là, parce que ça m'a gêné pendant tout le comics. Voilà, c'est une erreur de scénariste.
Surtout sachant que c'est lui, quoi.
C'est lui qui les a écrits. Et ça aurait été le bon moment un peu de placer dans la continuité où ça se passait. Et là, c'est complètement illogique. Et ça m'a fait sortir du comics et ça m'a gêné. Je suis retourné lire mon 18, je dis tiens, je comprends pas trop. Et après l'avoir relu, je comprends toujours pas ce qui s'est passé, quoi.
Ben ouais.
Un check it pour moi.
Chief Creative Officer. Check it.
Mais
moi.
Est-ce qu'on sait où se situe ce numéro au fait ?
6 mois dans le passé. C'est ce qui est dit, hein. C'est ce qui est dit sur la 3e page.
Ouais, d'accord. Ouais,
check it pour moi aussi.
Oui, pareil, check it, histoire de faire connaissance avec ces personnages pour ceux qui les connaîtraient pas, faire une opinion.
Faites connaissance avec l'ancienne version, quoi, ce sera plus simple. Et ce sera tout aussi rébarbatif à lire, quand même. Passons à la suite. Flo, tu nous parles du Batman et Robin numéro 28.
Tout à fait, c'est la conclusion de l'arc sur Two-Face, donc Batman
enfin.
And Two-Face en fait.
J'ai l'impression de lire 28. Ça depuis un an.
Écrit évidemment par Peter Tomasi et dessiné par Patrick Gleason, ancré par Mick Gray et Patrick Gleason. Donc conclusion d'un arc, voilà, c'était juste pour vous dire un petit peu ce que j'avais pensé de cet arc et de cette nouvelle origine de Two-Face. Et ben, je suis pas déçu par la conclusion de cet arc. Alors, comme dirait Sam, comme l'a dit Sam dans un de ses articles, c'est vraiment une série qui se lit bien en TPB, surtout cet arc où là, les dernières parties sont vraiment de l'action, puisque en gros, on reprend vraiment l'action où on l'a laissé au dernier épisode, où Batman, McKillen et Two-Face doivent s'allier pour s'échapper des mafieux et qui les poursuivent. Et en fait, voilà, grâce à ce... Là, McKillen est vite expédié. Bon, voilà, cet élément du récit est vite expédié. Et on se retrouve juste Two-Face et Batman qui vont à la voix faire face à la police, aux mafieux, aussi au groupe un petit peu anarchique qui a kidnappé Two-Face, tout simplement. Et ce face-à-face, enfin, ces alliés qui se font face aussi, ça va en ressortir des choses très intéressantes au niveau psychologique. Comme on l'a vu un petit peu dans les précédents épisodes sur la psychologie de Two-Face et sur son esprit tourmenté. Et ma foi, c'est très intéressant, très richement mis en scène. On sent que Tomasi et Gleason vraiment travaillent de pair, c'est vraiment des storytellers, les deux. Ça va, le storytelling passe tout seul, quoi. Et on sent que Patrick Gleason se fait très très plaisir. Voilà, il y a des belles références visuellement, c'est très fort, comme le reste de la série souvent. Ça appuie très bien le récit. Je vais pas vous révéler la fin, mais elle est un petit peu surprenante sur le sort de Two-Face. Mais voilà, bonne surprise globalement.
Il a deux fois le visage défiguré en fait. Toute sa gueule est, toute sa
ça
gueule
fait,
est dégueulasse.
vraiment très bon arc, j'ai trouvé. Il a c'est vrai souffert de la lecture mensuelle. En TP, ça passera vraiment tout seul parce que c'est haletant et très beau. Vraiment, Gleason est assez incroyable. Quoi, il a vraiment monté d'un cran depuis la mort de Damian, etc. Super, très bonne surprise. Très bonne surprise. Foncez lire cet arc, c'est du tout bon pour moi.
Un petit mot sur le titre du Next à la fin de cet épisode.
Le titre du Next, ça sera The Hunt for Robin.
Est-ce que ça t'inquiète pas un peu ?
Non, parce que je sais, en gros, oui, enfin, oui, dans le prochain arc, ça sera Batman qui va s'allier avec d'autres gens pour aller chez Ra's al Ghul, qui a, semble-t-il, récupéré le corps de Damian et de Talia. Voilà. Et ça me donne très envie, évidemment, de savoir ça. Il y aura aussi un team-up avec Frankenstein, donc ça, c'est cool.
Ok.
Donc c'est un très bon bail, voilà. Vous l'aviez compris.
Passons à la suite. Benny, tu vas nous parler du Harley Quinn numéro 3.
Alors, Amanda Connor et Jimmy Palmiotti sont en scénario, et puis Chad Hardin est au dessin. Alors, l'épisode commence par une scène qui m'a fait un petit peu marrer, puisque c'est la Saint-Valentin et que Harley Quinn est dans un lieu qui me rappelle là où j'étais vendredi soir dernier. Petite pensée à quelqu'un. voilà, j'en dirai pas plus.
Ça me va droit au cœur, Tristan.
T'étais là aussi ? C'est marrant, je t'ai pas vu, mais en même temps c'était dans le noir, donc.
C'est un donjon, voilà. C'est ça ?
Là en l'occurrence, c'est
dans... SM, ouais.
C'est le resto dans le noir, c'est ça ?
Plus ou moins. Je vous expliquerai après, peut-être. Mais là, au fait, elle est dans un train fantôme. Donc c'était plus ou moins ça vendredi. Et au fait, donc Harley Quinn, on la retrouve dans une fête foraine, voilà. Elle est pas contente, elle est pas de bonne humeur parce qu'elle déteste la Saint-Valentin. Elle retourne chez elle et chez elle, elle retrouve une plante que lui avait offert Poison Ivy, une plante qui a des vertus qui développe les phéromones et qui des vertus aphrodisiaques et qui permet donc à celui qui porte le parfum de cette plante de séduire tout le monde, hommes, femmes, enfants, animaux, enfin bref, voilà. Du coup, Harley Quinn se balade ensuite dans la rue et séduit tout le monde. Alors, je vais vous la faire courte, c'est gentillet, c'est sympathique, mais franchement, ça casse pas des briques. Quand, par rapport au premier numéro qu'on avait eu, qui était juste exceptionnel, qui était rafraîchissant, qui avait vraiment du potentiel et qui était très drôle, ça fait juste sourire, une fois ou deux, et puis c'est tout, hein, c'est très faiblard, quoi, je trouve, comme série, malheureusement. Ah, en tout cas, cet épisode est très faiblard, voilà. C'est juste sympa. Franchement, je sais même pas si ça mérite qu'on mette 3$ ou je sais plus combien c'est, je crois que c'est 3$. Ouais, 3$ dedans, bon, voilà. Pour moi, c'est vraiment, j'ai envie de dire, pour une série qui se veut être humoristique avant tout, c'est plutôt raté, quoi. Voilà, c'est pas terrible, donc j'ai quasiment envie de mettre un pass à ce numéro.
On continue pas du tout sur l'histoire des gens qui la poursuivent et qui ont mis une prime sur sa tête dans cet épisode.
Ah du tout. Là c'est vraiment une parenthèse et malheureusement une parenthèse inattendue mais qui est pas sympathique, qui est pas très attrayante, quoi. Voilà, ils ont voulu surfer sur la Saint-Valentin. En plus, bon, une semaine après, c'est pas de chance, ça tombe pas la bonne semaine. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt.
Je crois qu'ils se font plaisir avec cette série. Enfin, ils essayent en tout cas. Flo, tu voulais revenir un petit peu sur la série en elle-même.
Oui, ben non, mais ça. Enfin, j'ai pas lu ce numéro. En fait, j'ai arrêté au numéro précédent parce que j'ai trouvé. Enfin, ça confirme mes peurs. Hein, c'est que le numéro 0 était sympa parce qu'il était original. Il avait un concept qu'il portait. Et après, voilà, à partir du 1, l'histoire en elle-même, Il y avait un élément comique, c'est le hamster empaillé là.
Ah non, il est toujours là. C'est un beaver, c'est pas un hamster.
Oui, un beaver.
Il est toujours là.
Oui, voilà. Un castor, c'est ça ? Oui, un petit castor. Un castor empaillé, c'était un peu le comic relief du truc, et c'est vrai que c'est l'élément un peu décalé. Mais sinon, c'est très plat, quoi. C'est vrai que c'est une série qui est... n'a enfin, pas tellement d'intérêt. C'est dommage parce qu'elle est très jolie, par contre. Enfin,
je les ai rattrapés aussi. Je trouve qu'il y a une certaine originalité parce qu'elle va assez loin, cette série, je trouve, par certains aspects, comparé à d'autres séries d'essai, en fait. Ils osent certains trucs vraiment, vraiment glauques, des fois, pour une série d'essai. Par rapport à de l'indé, pas du tout, mais pour une série d'essais, je trouve que c'est assez glauque. Il y a quelques petits passages qui m'ont fait sourire, du genre, je crois que c'est dans, je sais plus si c'est en premier ou dans le deuxième épisode, parce que je les ai lus back to back tout à l'heure. On voit un mec dans un réfrigérateur. Voilà. On règle des comptes, quoi. Parce qu'on dit que c'est toujours les femmes qui sont découpées dans les réfrigérateurs. Oui, on voit un mec coupé. Enfin, il y a des petites choses marrantes, mais c'est pas l'éclatade qui avait été le numéro zéro, c'est sûr.
Mais là, franchement, plus ça va, moins ça manque de références, justement. Là, il y a aucune idée vraiment intéressante dans ce numéro 3.
Bah, surtout si c'est un épisode qui ne revient pas sur l'histoire principale. Par exemple, dans le numéro 2, il y avait quand même... je trouve une scène que j'ai trouvée... D'ailleurs, à moins que j'ai raté cette polémique, mais c'est bizarre que ça n'ait pas fait polémique sur le net, quoi. Cette scène où Poison Ivy et Harley Quinn se réveillent côte à côte, à moitié à poil, on a très bien compris ce qui s'est passé dans la nuit. Le côté puritain des Américains qui n'a pas parlé, ça m'a étonné d'ailleurs.
Bah là, il y a une flic qui embrasse Harley Quinn, du coup. Bon, mais...
Moi, je trouve ça très bien. Je veux dire, voilà, c'est une série qui est résolument décalée avec un ton un peu plus adulte, mais ça m'étonne que ça n'ait pas fait grand bruit, alors que d'habitude...
Bah justement, là, le problème de ce numéro 3, c'est que je trouve qu'il n'y en a pas assez. C'est trop en retenue. Voilà, c'est à côté, par rapport à un épisode de Deadpool, tu vois, Deadpool est plus déjanté et plus rentre-dedans. Là, c'était trop gentillé, ce que j'ai lu, là, sur cet épisode 3.
Ouais. Tu voulais peut-être rajouter un mot, Flo, sur... Bah, de toute façon, déjà, tu l'as dit, tu as arrêté la série, du coup.
Ouais, non, oui. C'est vrai que tes références sont cool. Tu vois, c'est... globalement, le concept et le but, l'objectif de la série est bon. Et les gens qui la font ont des bonnes intentions, mais voilà, il y a pas le coup de génie, voilà, il y a pas le coup de génie au niveau des dialogues, au niveau de l'histoire, qui fait que ça devient un supérieur foes of Spider-Man avec des éléments de mise en scène géniaux, des trucs comme ça. C'est juste très joli à voir et plus ou moins lisible et amusant, mais c'est vraiment plat, quoi. Enfin bref, voilà.
Bah c'est vrai que le cassage du quatrième mur dans ce numéro zéro pouvait te laisser penser qu'on avait un Deadpool chez DC, et pas du tout.
Non.
Pas du tout. En fait, revient à du comic classique, en fait, tout simplement.
Moi,
enfin, un personnage classique, quoi.
Je pensais plus depuis le début à Miss Hulk, mais même Miss Hulk, c'était plus déjanté que ça, quoi.
Miss Hulk,
il y avait plus d'idées. She-Hulk, ouais.
Ah non, She-Hulk, enfin, moi je trouve que ça n'a rien à voir avec She-Hulk, Harley Quinn.
Ah si, bah moi, le numéro 0, je trouvais que ça avait à voir avec She-Hulk des années 80 ou 90, je sais plus, enfin ce que avait fait John Byrne, et carrément. Mais bon.
Ouais. Moi c'est vrai que je l'avais vraiment plus vu comme un Deadpool, étant donné qu'en plus, avec son côté très... très zone d'ombre, je suis un peu gentil, un peu méchant, je sais pas trop où je me place, quoi.
Oui, d'accord, mais il y avait aussi le côté je parle à mes auteurs, à mes créateurs qui m'ont retrouvé totalement dans She-Hulk.
Oui, mais Deadpool le fait aussi.
Oui, mais c'était plus le côté féminin aussi quand même, parce que bon.
Bah Deadpool le fait aussi.
Ouais, il y a une Lady Deadpool, mais c'est peut-être pas aussi sexy quand même. Là, justement, il y avait le côté sexy aussi d'Harley Quinn qui jouait un petit peu avec ça et que She-Hulk avait complètement aussi. Donc voilà, mais là, non, ça manque de folie, ça manque d'idées, voilà, ça manque de profondeur. Et je ne dis pas pas d'allusion dégueulasse, quoi.
Ah bon, je n'y pensais même pas, honnêtement. Bruno, est-ce une série que tu lis encore, Harley Quinn ?
Non, j'ai pas commencé encore, mais... j'ai lu que les deux premiers. J'ai lu le 0 et le 1, et j'ai pas lu le 2 et le 3, donc je peux pas me prononcer encore, j'avais trouvé plutôt sympathique au début.
T'as commencé, bon, c'est bon.
Oui, j'avais commencé, mais voilà. Après,
et la rupture
c'est
entre le 0 et le 1, t'as pas trop choqué ?
Non, pas du tout, parce que le premier épisode, avec Chad Hardin au dessin, était plutôt rigolo, avec la découverte de cette... cette maison dans laquelle il y a plein de gens bizarres. Mais voilà, mais j'ai pas eu le temps de lire les suivants. Après, c'est un titre qui se vend hyper bien.
Bah dans le 2, on découvrait cette maîtresse SM à moitié qui tenait un espèce de musée de l'horreur des tueurs en série. Voilà, des bonnes idées, mais c'est, disons qu'on aimerait en voir plus. Il faut laisser le temps à la série peut-être de s'installer. Ça ne fait que 3 mois finalement, mais je sais pas. Je trouve clairement qu'il y a quand même un problème de rythme, déjà ne serait-ce que sur les 2 premiers épisodes. Alors surtout si le 3, comme tu l'as dit, Benny, encore une fois, ne suit pas la trame principale, quoi.
Bon, il y a juste une référence à ce qui se passe, mais c'est vraiment léger, quoi. C'est une case.
Ouais, non, c'est pas suffisant.
C'est vraiment une parenthèse, cet épisode. Donc on peut totalement s'en passer.
Bien. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, donc tu l'as dit, passe.
Ouais, passe pour cet épisode.
Terminons notre partie d'essai avec Birds of Prey numéro 28, qui est tie-in au crossover Godtopia. J'ai été le lire, j'ai rien pigé. C'est écrit par Christy Marx et dessiné par Romano Molinar ainsi que Daniel Sampere. Le problème, c'est que...
C'est les dessins de Romano, hein, je pense.
On a aussi du Scott McDaniel et du Jonathan Glapion et Jordi Tarragona. Alors je comprends pas qui fait quoi. On a des pencils par Romano Molinar.
Qui fait l'homme, qui fait la femme.
On a des pencils par Romano Molinar et Daniel Sampere. On a des breakdowns de Scott McDaniel et un ancrage de Jonathan Glapion et Jordi Tarragona.
Pencils breakdown.
C'est un peu le bordel, quoi. Non, en fait, ce que je n'ai rien compris, c'est que je ne suis pas la série Birds of Prey du tout. Or, c'est juste ce numéro-là qui est tie-in à Godtopia, et on a pas mal de références avec ce qui se passe dans Birds of Prey actuellement. Or, pour moi, ça reste assez obscur. Bon, je dis pas que j'ai rien compris. On va voir l'équipe des Birds of Prey qui s'appelle...
C'est ce que tu viens de dire.
Wings of Truth, dans cette version alternée. Chaque personnage a un pseudo différent. Hein. On est ce monde de Godtopia où tout est beau, tout est joli, tout est blanc, c'est la ville de l'espoir, Gotham. On va revenir sur le pétage de plomb de Batman.
Juste un truc que j'ai jamais compris dans Godtopia, c'est la ville de l'espoir, tout est beau, tout est gentil. Pourquoi ils ont besoin de super-héros ?
C'était dit dès le numéro 27, les super-héros en fait servaient plus à grand-chose. Ils servaient presque plus à arrêter. Oui, mais ils servaient presque plus à aider les gens dans le besoin lors d'un accident de voiture, c'est une chance de chose qui peut toujours arriver, mais dans une belle ville, plutôt que arrêter des méchants. Il en restait quelques-uns, des mecs qui faisaient des petites attaques de banque, mais il n'y avait plus de super vilains, quoi.
Mais pourquoi des identités secrètes, des super costumes, etc., si c'est pour aider les gens dans le besoin ?
Je sais pas, tu poses la question à John Lehman et à consort.
Ouais, non, mais voilà.
Tu leur envoies un mail, j'en sais rien. Du coup, c'est le personnage de Black Canary qui va découvrir le poteau rose grâce à l'aide de quelqu'un dont Flo a parlé tout à l'heure, c'est Ra's al Ghul. Ra's al Ghul qui vient donner la solution à Black Canary sur comment échapper à ça, mais il a besoin de quelque chose en retour. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra qu'elle ferme les yeux. Elle lui dit que ce n'est sûrement pas assez pour qu'elle ferme les yeux, et il va lui donner peut-être le remède pour sauver son mari. Mari qui est dans un coma. J'ai l'impression que c'est une intrigue qui est en cours dans Birds of Prey, mais j'en sais rien comme je ne lis pas la série. Petite chose qui m'a dérangé, on voit Batgirl arriver à la fin, qui a réussi à s'échapper de la ville elle aussi, et à rejoindre Black Canary, et on nous dit « Suivez les événements dont Batgirl parle dans Détective 29. » Le mois prochain. Un petit peu dérangeant parce que voilà, si je lis le Détective 29, du coup, je sais très bien que Batgirl va s'en sortir et va aller rejoindre Black Canary hors de la ville. Ça me fait chier. Ça me fait chier d'avoir des annonces en avance, quoi. Enfin, en avance. À l'intérieur du comic, sans avoir été lire les sollicitations. C'est-à-dire que même si je voulais l'éviter, je l'ai pris en pleine gueule. Encore un petit problème de gestion éditoriale, une fois de plus. Bon, franchement, cet épisode de Godtopia est dispensable. Totalement. Ça fait pas avancer l'histoire. Et puis, peut-être on peut être intéressé pour aller lire Birds of Prey, puisqu'il y a cette histoire avec Ra's al Ghul. Moi, pas plus que ça, honnêtement. Donc, je vais te mettre un pass pour Birds of Prey. Et j'ai envie de dire que notre avis sur la semaine de production d'essai, on n'a peut-être pas lu les bons. Mais en tout cas, c'est quand même relativement faiblard. À l'exception du Batman et Robin que Flo a lu et adoré, les trois autres, on est quand même un petit peu mitigés. Hein. Ouais. Est-ce que c'est nous qui sommes trop... qui sont trop biaisés, peut-être, je ne sais pas.
Non, parce qu'il y a d'autres choses très très bien chez DC, qui sont sorties cette semaine, mais qu'on n'a pas lues.
Oui, ou que l'on s'est réservé pour les lire ouais, au calme. Parce que je rappelle qu'on fait cette émission le jeudi, les comics sont sortis depuis mercredi. Faut pouvoir enchaîner les lectures et donc les lire un petit peu à l'arrache, quoi. Allez, passons à la partie indé maintenant. On va revenir vers toi, Bruno. Tu vas nous parler de la suite de cette espèce d'event assez étrange chez IDW, X-Files Conspiracy, Teenage Mutant Ninja Turtles.
Ouais, et alors, c'est d'enfer, hein, ce crossover pour l'instant. Donc, ce numéro est...
On attaque la partie indé, et premier truc qu'on dit, c'est d'enfer. Alors que juste avant, on était super morose pendant une demi-heure.
C'est d'enfer, ouais. Ouais. Ah non, mais c'est génial. Donc, c'est écrit par Ed Brisson avec des dessins de Michael Walsh. Donc là, on a cette histoire où en fait, il y a les Lone Gunmen qui ont reçu un message qui a priori vient du futur et qui les prévient en fait qu'il va y avoir une épidémie virale qui va détruire presque tous les États-Unis et peut-être même le monde entier. Et en même temps, ils reçoivent des indices comme quoi, pour pouvoir éviter ça, il faut qu'ils aillent enquêter sur certaines légendes urbaines. Lors du précédent numéro, ils étaient allés voir les Ghostbusters. Et dans ce numéro, en fait, ils ont entendu parler de manphibiens, de sortes d'amphibiens humains, qui vivraient dans une ville au Northampton. Et donc, ils vont enquêter pour voir ce qui se passe là-bas. Et là, on a droit à un super numéro écrit par Ed Brisson, qui s'amuse à jouer avec les Tortues Ninja et avec la continuité X-Files. Puisqu'en fait, c'est la suite de l'épisode de Bad Blood de la saison 5, avec ces fameux vampires qui contaminaient les pizzas pour justement attaquer les humains. Et justement, les Tortues Ninja sont face à ces vampires. Il y a les Lone Gunmen qui arrivent et qui sont mêlés à tout ça. C'est hyper délirant, c'est très bien écrit, c'est très joli en plus. Donc c'est le dessinateur actuel de Teenage Mutant Ninja Turtles. Donc voilà, ça, l'histoire avance. Voilà, j'ai vraiment pris du plaisir en lisant ça, et il me tarde de voir le prochain épisode qui, lui, confrontera les Tortues Ninja aux Transformers. Donc voilà, c'est très sympa. Un bail.
Et pour Bruno, je rappelle qu'on dit Bad Blood, par pitié.
Bad Blood.
Bah oui, Bad Blood, quoi, par pitié.
Ouais, Bad Blood, je l'ai dit à la française.
Ouais, non, mais non, mais même à la française.
Elle a rien du tout, j'ai dit à la Sam. Allez, comme ça, c'est bon.
Il va apprécier.
Ouais, son genre.
On va passer à notre série de coups de cœur, puisqu'on va enchaîner les coups de cœur à partir de maintenant. Hasard du programme, ils sont tous tombés côte à côte. C'est le coup de cœur de Flo, c'est Quantum and Woody numéro 8.
Oui, t'as spoilé Quentin, les coups de cœur de tout le monde, du coup.
Quentin et Woody, écrit par Jam Asmu et dessiné par Meng Dual.
Oh putain, c'est horrible, non, c'est horrible.
C'est terrible. Écrit par James Asmus, dessiné par Meng Doyle, c'est la conclusion de l'arc qui court depuis 4 numéros, je crois, entièrement dessiné par Meng Doyle, d'ailleurs. Alors, je vais pas vous faire toute l'historique de comment ils se retrouvent dans cette putain de situation, les mecs, mais en gros, pour vous faire le pitch, au début de l'épisode, bon, Quantum et Woody se retrouvent en plein milieu d'un camp fortifié de suprémacistes blancs séparatistes anti-gouvernement. Fan de Quantum, donc Eric le black qui porte un masque, on voit pas qu'il est black, ils sont fans de lui parce que par le passé, dans les épisodes précédents, ils ont un peu, sans faire exprès, pété des laboratoires gouvernementaux, des trucs comme ça, donc ils pensent que c'est leur héros parce qu'il est anti-gouvernement. Manque de peau, ils voient qu'il est black, donc ça leur plaît un peu moins.
Et, sans déconner, et comme c'est bizarre,
long story short, ils se retrouvent assiégés par le patron d'un complexe militaro-industriel qui est l'ancien patron de Quantum. Donc ils ont plein de chars, c'est un vrai redneck le gars, il signe des contrats de trillions de dollars avec le gouvernement américain, et c'est toute une conspiration, voilà, bref, je vous passe les détails. Mais c'est hilarant, mais c'est absolument génial cette série. Et ce numéro, cette conclusion d'arc, c'est la folie, parce que c'est l'attaque des chars et des soldats du complexe militaro-industriel dans ce camp de redneck, mais jusqu'au bout des ongles. Et du coup, Quantum et Woody se sont alliés à ces redneck pour contrer quoi, ce truc. Donc les méchants deviennent les gentils, enfin, c'est assez génial comment c'est foutu. Et il y a des gags à chaque page, c'est assez énorme. Les mecs en pleine attaque, Quantum et Woody, comme d'habitude, qui sont deux frères, se chamaillent, et on apprend que Quantum, qui est noir, il est républicain en fait, et en pleine bataille, en pleine baston, il commence à débattre sur qu'est-ce qu'il est mieux de faire, croire en son pays ou croire. Comment on peut être républicain et noir à la fois, et il y a tout un débat là-dessus, c'est très très drôle. C'est vraiment très drôle parce qu'ils ont vraiment des personnalités très différentes quand on nous dit. C'est extrêmement drôle. Ils aident à s'échapper et Woody commence à pousser une gamine pour dire de se dépêcher. Et la gamine lui dit fais attention, je suis enceinte. Mais la gamine doit avoir 12 ans, tu vois. Donc ils sont vraiment en train d'aider des bons gros bouseux, mais horrible. Je manque de mots tellement c'est excellent. C'est bon. Graphiquement, c'est particulier. Mink Doyle, on a pu la voir dans récemment dans une mini-série de chez Image de Brian Wood, Mara. Bon, c'est un petit peu rushé. C'est une jeune artiste qui a pas fait grand chose. Il y a quand même elle a déjà une identité graphique propre, mais il y a quand même des choses à améliorer en termes de perspective, en termes de morphologie, voilà, des personnages. Mais ça reste plaisant à regarder. Mais c'est vraiment particulier. Et c'est absolument génial, quoi. Cette série est géniale. Cette conclusion d'arc, c'est le meilleur épisode de l'arc, je pense. C'est génial. Et je crois que le mois prochain, on se retrouve avec le one-shot The Goat Zero, qui, à mon avis, va être complètement dingue. C'est une super bonne surprise, ce truc.
Je suis sûr que tu attends en plus avec impatience la prochaine série.
Delinquents alors là, putain. Fred Van Lente et James S. Smith qui écrivent un truc de Quantum and Woody et Archer and Armstrong, mais c'est juste, c'est cataclysmique, quoi. Je veux dire, il peut rien arriver de mieux sur Terre, si tu veux. c'est génial. Donc, c'est mon coup de cœur de la semaine. C'est super drôle. Enfin, lisez Valiant. J'ai hâte que le public français, qui lit du français, le découvre aussi en TP chez Panini parce que c'est fantastique. Quoi.
Ça s'arrête hein, en français, malheureusement.
Non, salaud, arrête. Les gens vont y croire.
Alors, c'est génial.
Les gens vont y croire. Et bien, justement, on va continuer sur Valiant. On va passer au coup de cœur de Mister Ron et Bunny. C'est Unity numéro 4.
Alors, un numéro 4 par Matt Kint, toujours, et avec des dessins de Doug Braithwaite, qui va changer d'ailleurs, ce sera plus Doug Braithwaite la prochaine fois, ce sera, je ne sais plus, mais ce sera un autre artiste pour cette cinquième partie, il me semble. Donc, au fait, il s'est passé un gros coup de théâtre dans Unity dans l'épisode 4, alors, l'épisode 3, je veux dire, puisque là c'est l'épisode 4. J'espère que tu es à jour, Flo. Parce que
j'ai pas lu le 4, mais je suis à jour.
D'accord. Donc le gros coup de théâtre, l'équipe de Ninjak, Livewire et les quelques autres héros de l'univers Valiant qui se sont réunis pour stopper Ixo Manowar ont réussi à l'arrêter. Ils ont récupéré l'armure de Ixo Manowar et ils l'ont confié à Toyo Arada. Sauf que ils se rendent compte que peut-être que Toyo Arada est une plus grande menace encore que ne l'était Arik, le porteur initial de l'armure d'Ixo Manowar, puisque le mec apparemment est un grand psychopathe et qu'il pourrait se servir de l'armure à des fins personnelles et qui serait très très vilaine. Et
ça se voit que les mecs ils ont pas lu Harbinger, hein, parce que sinon ils le sauraient.
Disons qu'il a des principes, mais des principes qui vont, c'est un personnage ambigu.
Clairement,
c'est pas un fou,
le
c'est
mec,
pas un fou. C'est un mec très très intelligent, mais qui a des principes qui vont pas plaire à tout le monde. Voilà.
Sa jeune protégée, Livewire, se retourne contre son maître et décide avec Ninjak et le guerrier éternel, on va l'appeler comme ça en français. d'intervenir et d'empêcher Toyo Arada de prendre possession de cette armure. Et donc c'est un épisode bourré d'action qui fait encore une fois avancer bien les choses avec un bon petit retournement de situation, un bon petit cliff à la fin.
Bah, c'est surtout la conclusion de ce crossover Unity en fait. La série va continuer, mais c'est la conclusion du crossover Unity.
Ouais, du premier arc,
ouais. Ouais. C'est très bon, une bonne surprise, un bon tour de force pour Valiant d'avoir réussi à faire un event qui tient la route. Que dire de plus?
Que c'est ton coup de cœur.
Que c'est mon coup de cœur de la semaine, effectivement, c'est ce que j'ai lu de meilleur. Que j'espère effectivement que ça va sortir en français aussi. Et que le public français va faire une ovation, un très bon accueil à cet univers Valiant qui le mérite.
Oui, une hola, mais après l'avoir acheté, hein, par contre. Faites pas la hola avant, ça sert à rien.
Ouais. Voilà, faire la hola dans les rayons des librairies comme des cons devant les bouquins, ça sert à rien. Et bah non, bah c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire de plus?
Bah que c'est un gros bail.
Bah achetez-le.
Ouais, c'est un gros bail, achetez-le. Et voilà quoi, vive l'univers Valiant. Une très bonne alternative toujours à DC et Marvel.
Et oui, certains nous déçoivent et d'autres continuent de nous enchanter. Mois après mois. Bah ouais, pour le moment, ça ne baisse pas. On passe à la suite. C'est mon coup de cœur de la semaine. C'est Alex plus Adam numéro 4. Scénario de Sarah Vaughan et Jonathan Luna. Jonathan Luna qui signe aussi la partie illustration, design, couleur et aussi lettrage. Voilà, il fait tout le monsieur. Et contrairement à son frère, il sort les choses à l'heure. N'est-ce pas, Whispers? Ça, c'est fait. Alors, la suite.
Je sais pas s'il t'écoute. Hein.
Oui, mais je m'en fous. Je l'ai fait quand même.
On sait pas non plus s'il y a des gens qui savent de quoi tu parles en plus.
Bah, Whispers, qui était la mini-série de l'autre frère Luna.
D'accord.
Dont j'avais parlé dans les Comics Weekly il y a de ça un bon moment. On va reprendre l'histoire exactement au point où elle en était à la fin du numéro 3. C'est-à-dire notre personnage principal qui débarque dans cette partie cachée d'Internet où il y a un forum assez particulier qui peut répondre à ses attentes, à savoir donner une véritable conscience, ou en tout cas en savoir plus sur comment donner une conscience à son robot. Puisque c'est ce qu'il veut, il en a marre d'avoir un automate qui est toujours d'accord avec lui, qui trouve les choses drôles si lui-même les trouve drôles, que son robot trouve les choses belles si lui les trouve belles, etc., etc. Il veut quelqu'un avec une véritable personnalité. Et ça va être un épisode uniquement de discussion qui va se passer quasiment entièrement dans ce forum où on voit, enfin où les gens ont leur propre apparence. Hein, donc ce n'est pas que du texte. Ils n'ont pas tenté de faire un truc assez étrange qui soit super chiant à lire. Non, c'est de la BD classique avec des personnages qui discutent. Et non, par contre, il y a juste énormément de textes à lire. Et ça revient, comme d'habitude avec cette série, sur pas mal de problèmes de société, notamment dû à l'émergence des robots. Et sur le fait de leur donner une conscience, est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas. Il ne répond pas à la question, il vous laisse vous faire votre propre avis en exposant les deux possibilités, à vous de choisir celle qui vous plaira le plus. Et Alex va devoir prendre sa décision. Va-t-il donner une conscience à Ada ou pas? C'est ce que vous saurez à la fin de cet épisode. Et s'il le fait, est-ce qu'il ne va pas le regretter très vite? Voilà ce qu'on peut dire pour cet épisode. J'adore. Je trouve que il y a toujours un ton tellement, tellement agréable dans cette série. C'est bien loin de ce qu'on a l'habitude de lire. On n'est pas du tout dans du super-héros. On n'est pas du tout dans de l'action pure. On est plus dans quelque chose d'assez porté sur la réflexion. Quelque chose. Je pense que ça pourrait être un bon drame au cinéma. Quelque chose, un film qui serait juste un film où les gens parlent. Enfin, il y en a tellement en même temps. Et ils font que de parler, il n'y a pas de grosses scènes d'action, il n'y a pas de poursuite de bâtiment en bâtiment avec des trucs qui explosent de tous les côtés. Non, c'est juste très calme, très posé. Et ça fait du bien de lire aussi des choses un petit peu plus cool. On en prend pas plein la gueule pendant tout un épisode, comme par exemple les Metal Men, qui sont, l'épisode de Justice League où la question action, ça ne s'arrête quasiment jamais, quoi. Donc gros bail pour ce quatrième épisode d'Alex Posada. J'attends de voir la suite de la série avec impatience. Série, d'ailleurs, je ne sais toujours pas si c'est une mini ou si c'est une série régulière. Je sais pas si l'un de vous a cette info.
Non, je suis pas au
courant. Non, je sais pas.
Voilà. Bon, ça répond bien à ma question.
Merci.
Gros bail et on passe au coup de cœur de Bruno. Une petite nouvelle sortie qui s'appelle Loki Ragnarok and Roll.
Ouais, c'est chez Boom, c'est une mini-série en 4 numéros.
Ah bah là au moins t'as la réponse, bien sûr.
Voilà, ouais, c'est ça. Et c'est écrit par Eric Esquivel, avec des dessins de Jerry Gaylord. Donc Jerry Gaylord, on a pu le voir sur des titres comme Fanboy vs Zombie. Donc, dans ce pitch de cette histoire, c'est un peu fou, quoi. C'est un titre hyper délirant. En fait, on va se retrouver sur Asgard. On va découvrir Thor et Loki et leur relation un petit peu tumultueuse. Et Odin qui envoie Thor et Loki pour aller résoudre un peu les problèmes avec les géants des glaces. Malheureusement, Thor, c'est un peu les gros bras et tout, il veut tout casser alors que Loki était censé faire une mission diplomatique et tout part en couille. Et en fait, quand ils reviennent après à Asgard, bah c'est Loki qui prend tout dans la tronche parce que son frère le balance et dit que c'est sa faute. Et du coup, il est envoyé sur Terre. C'est inversé par rapport à Marvel. C'est Loki qui est envoyé sur Terre et qui est puni. Et il se retrouve sur Terre et il se rend compte que les humains sont cool et donc il veut devenir une rockstar. Et c'est n'importe quoi. Ça, c'est vraiment à mourir de rire. Le titre est vraiment très très drôle. On a droit à une double page, par exemple. On voit toutes les divinités qui sont rassemblées chez Odin pour prendre un bon repas. On a droit à des choses assez folles, comme par exemple Flying Spaghetti Monster, qui est quand même ce dieu internet qui est un mème un peu, qui est assez drôle. On a droit au dieu des relations entre hommes, d'amour entre hommes, le dieu chinois des relations entre hommes. On a droit à
dont
des
Loki et Thor
blagues.
sont experts, oh oui.
Voilà, c'est ça. On a Hercule, on a Ganesh, on a Fujin. Enfin, il y a plein de petits clins d'œil partout. Il y a des bonnes petites blagues. Et alors, quand on voit Loki qui débarque sur Terre, il tombe dans un bar un peu gothique avec un gros métalleux qui fait un concert et tout. Il est fan. Et donc, il devient un grand 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 chanteur. Donc même au comics, il conseille certains titres. Il conseille Killing the Dragon de Dio, The Fight Song de
Oh, mais
Marilyn
c'est
Manson.
mythique. Oh.
Il conseille Blood and Thunder de Mastoun et
Blood,
Print
putain, Blood.
Blood and Thunder de Mastoun. Je connais même pas Mastoun, mais tu connais toi, Steve?
Mastoun.
Mastoun.
T'es sûr que c'est Mastoun?
Mastodon, pardon.
Ouais, ça m'étonnait aussi parce que Mastodon, oui, je connais Mastoun, je connais beaucoup moins déjà.
Non, mais c'était bien parce que c'était Blood de Mastoun. Bon bah c'est voilà, forcément.
Non
c'est
mais
bien,
le lettrage est pas terrible là.
Mais mets un copyright dessus parce que on sait jamais.
Le lettrage est pas terrible, on dirait des O. Enfin bon. Enfin voilà. Donc c'est fun du début à la fin.
Putain, mais c'est ça
et
que j'aurais dû lire moi. En tant que
métal,
j'aurais dû lire ça, putain.
Bah là, c'est clair. Et c'est sexy par un moment, c'est drôle, c'est assez irrévérencieux. Voilà, il y a plein de références à tout ce qui est mème, internet et compagnie. Voilà, donc c'est un plaisir.
De toute façon, la simple référence à Dio fait que je vais aller acheter le comic, quoi. Donc voilà, c'est bon.
Voilà, donc je le conseille vraiment fortement. Un gros gros bail pour une petite série qui sera en 4 numéros. Et voilà, ne vous fiez pas à la couverture qui n'est pas du dessinateur qui fait les intérieurs. Elle est sympa la couverture, mais ça donne peut-être pas autant envie que ça mériterait. Voilà. Parce qu'il faut vraiment y prêter attention à ce titre. Donc un gros gros bail.
On va terminer avec à nouveau du Image, la sortie du 193e, je vais y arriver. C'était tellement mauvais que je voulais déjà que ce soit 194. 193e épisode de Savage Dragon, qui est censé être un jumping point, enfin qui est pas censé, qui est un jumping point, clairement. Bon, la série s'est arrêtée pendant quelques mois. Elle revient avec ce nouveau numéro 1, enfin pseudo numéro 1, qui est le 193, mais c'est un nouveau numéro 1 où on va suivre le fils de Dragon, qui a vraiment pris le titre, Malcolm, hein, il s'appelle. Et c'est vraiment lui la nouvelle star du comic, et j'ai trouvé ça chiant comme la mort. En fait, pour moi, alors je sais que vous n'avez pas le même avis, mais je vais faire très vite et je vais vous laisser parler parce que j'ai vraiment pas grand chose à en dire sinon du mal. C'est très mal dessiné. Je ne reconnais plus du tout Eric Larsen. Pour moi, il fait du caca. Il en a plus rien à foutre de sa série. Autant qu'il l'arrête, ça le fait chier de le faire parce que si c'est pour faire ça, c'est pas bien. Et puis là, j'ai l'impression qu'il repompe un concept qui marche, à savoir Invincible. J'ai eu l'impression de lire un épisode d'Invincible. Et c'est pas ce que je veux voir dans Savage Dragon. J'aimais Savage Dragon parce qu'il y avait une identité propre. Et ben là, il y en a plus d'identité, quoi. Et en plus, c'est très laid, donc voilà. Donc Benny et Bruno, vous l'avez lu. Je vous en prie, sauvez-le si vous y arrivez.
Moi j'ai pas trouvé ça terrible non plus, hein. C'est pas mal sans plus, ça joue bien le rôle de First Issue, enfin de Jumping Point, parce que moi j'ai jamais lu de Savage Dragon et je rentre dedans sans aucun souci. Voilà, on découvre le fils de Dragon, on voit sa première journée à l'école dans la nouvelle ville dans laquelle il s'est installé. On sent tout de suite que le titre a quand même une petite originalité, c'est qu'on a quand même des dialogues qui sont assez assez matures, assez vulgaires même par moment, et donc ça change un petit peu de ce qu'on a dans Invincible peut-être.
Est-ce que t'as des écailles sur la bite? C'est pas moi
voilà.
qui le dis, c'est dans le comic. Hein.
Ça m'a fait rire quand j'ai lu ça quand même. Voilà, mais après sinon c'est vraiment assez bateau. On a droit à une menace complètement moche. à moitié pompé sur sur Total Recall.
Mais, c'est vrai.
Ouais, bon, à la rigueur, moi, ce genre de monstre ne m'a pas dérangé dans l'univers Savage Dragon. C'est pas ce qu'imaginait le plus. Hein.
Mais voilà, mais après, oui, c'est rigolo parce que ça va dans la surenchère graphique. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, Steve. Quand on regarde bien les dessins, c'est quand même assez bâclé. Effectivement, c'est gros traits. C'est
il y a jamais voilà, de fond. Il y a jamais de putain de fond. Sérieux, quoi.
Ouais. C'est pas désagréable. C'est un bon jumping point.
Il a eu des mois de pause. Il aurait pu s'appliquer un peu plus quand même pour faire le 193. Ouais. Hein.
Moi, je suis pas sûr de retourner voir la suite. Mais voilà.
Benny.
Bah écoute, oui, graphiquement, c'est sûr que c'est bâclé, ça, enfin, c'est décevant. Son style,
non,
d'ailleurs,
pas
n'allait pas en s'améliorant. Déjà, même sur, enfin, ouais. Ces dernières années, je trouvais que c'était, j'accrochais de moins en moins à son style.
Moi, j'aimais son côté Kirby, mais là, justement, il y a même plus de côté Kirby, quoi. C'est le Kirby du pauvre là. C'est le Kirby. Excusez-moi.
Non,
pour la vanne raciste, mais c'est le Kirby. C'est le Kirby contrefait à la taïwanaise, quoi.
Non, mais oui, mais de toute façon, qu'est-ce que je veux dire? Oui, non, mais il a changé son style au fur et à mesure des années. Là, clairement, enfin, je trouvais que ça se dégradait de plus en plus. Et là, c'est pas bon. Maintenant, je sais pas si, enfin, quelles sont les raisons de son arrêt pendant des mois, si y en a exactement, ou si c'est juste qu'il voulait faire une pause sur sa série. Enfin, je sais pas, vous êtes peut-être au courant plus que moi de ce qui se passe.
La seule chose qu'on sait, c'est que dans la lettre à la fin, son père est décédé un petit peu avant la sortie du comics. Donc peut-être qu'il était assez pris, peut-être pour s'occuper de son père, je ne sais pas. Mais voilà. Mais sinon, non, j'ai aucune info sur le pourquoi du comment.
Faudra voir si le prochain épisode est toujours de la même teneur graphique.
Il faudra y aller déjà. Moi, c'est pas mon cas. Hein. J'irai pas.
Ouais, moi j'irai sans doute parce que bon, hormis graphiquement où c'est vraiment décevant où c'est bâclé, je trouve que bon, bah, ça fait le job du jumping point. La preuve, Bruno est rentré dedans
oui.
Alors que, enfin voilà, je veux dire, il y a pas besoin de savoir grand chose. Le scénario, oui, ça fait penser à Invincible, mais en même temps, pourquoi pas. Enfin, il n'y a pas de règles qui font qu'on n'a pas le droit, à un moment donné, de faire penser à tel ou tel autre comics. Bon, là, oui, c'est vrai qu'il y a un côté Invincible
ouais,
dans cette intrigue, forcément.
C'est gros copier-coller, je trouve.
Ça fait un moment que c'est ce scénario-là, en même temps, que le père était devenu complètement fou. Là, bon, il est dans une voie de rédemption. Il y a eu un saut dans le temps. Le fils a quand même grandi. Je sais pas. Moi, ça m'intrigue de voir où on va aller à partir de là. Il se passe pas grand-chose. Moi, je l'ai lu assez rapidement, justement, ce numéro. Oui. Je pensais que ça allait être beaucoup plus ample que ça, mais non. Je sais pas. Moi, j'attends de voir. Franchement, là, c'est en quelque sorte, c'est un numéro 1 de son relaunch entre guillemets. Il a le mérite aussi de pas avoir fait un numéro 1, de pas avoir recommencé en fait sa série au numéro 1, de continuer la numérotation ancienne. Bon, et puis c'est quand même un titre qui porte à lui seul à bout de bras depuis des années. Bah, voilà, peut-être qu'il est dans une mauvaise période, je vais lui laisser le bénéfice du doute. C'est vraiment son premier grand manquement depuis des années. Enfin, je veux dire, ça fait 20 ans qu'il fait ce titre. C'est vrai que c'est la première fois où je me dis, ah, ouais, pas terrible, terrible, quoi. Mais faut voir. Franchement, c'est juste un épisode. J'irai voir ce qu'il va faire avec ça, avec le fils du dragon, puisque c'est le nouveau héros de sa série, quoi.
Ben moi, j'attendrai que tu m'en parles et je déciderai si je vais continuer ou pas, quoi. Parce que là, moi, clairement, au vu de cet épisode-là, je ne continue pas. Ne serait-ce qu'aussi à cause des répétitions qui m'ont... J'ai trouvé ça insupportable dans le comic. Il répète 4 fois qu'il était avec une copine, mais c'est compliqué. Il répète 3 fois qu'il est dans un petit appartement tout miteux. Putain, c'est bon, quoi. Déjà qu'en plus, c'est super vite à lire, si en plus c'est pour relire le même dialogue. C'est même pas du dialogue à la Bendis, là, c'est purement de la répétition 3 pages plus loin.
Non mais là clairement on a l'impression que c'est le fait d'un auteur qui était pas dedans quoi. Donc bon. Faut
soit
voir.
La pause a pas été assez longue, soit il faut vraiment je sais pas, il faut arrêter au bout d'un moment, il faut penser à arrêter peut-être.
Non mais bon, si vraiment il a eu des soucis personnels enfin voilà, c'est peut-être dû à cause de ça. Moi franchement, je lui laisse le bénéfice du doute là-dessus. Bon, on verra par la suite.
Je sais pas, moi j'ai comme l'impression qu'il ne sait vraiment pas où il va avec cette nouvelle version. Mais la preuve en est aussi avec le non-cliffhanger de l'épisode. Parce que là clairement, ça pourrait s'arrêter là. Hein.
Mmh. Oui, mais enfin bon, c'est pas la première fois qu'il y a des séries sans cliffhanger. Je veux dire, toutes les semaines, quasiment, on tombe sur un titre où il n'y a pas vraiment de cliffhanger,
oui,
et on se dit, bon,
sur un numéro
on va attendre
1,
la suite.
Enfin, sur un pseudo numéro 1, c'est toujours gênant de ne pas avoir quelque chose qui te donne envie d'aller lire la suite. Parce que là, ça pourrait être un one-shot, ça pourrait s'arrêter là. Bon. Ah là, la situation est expliquée, le fils reprend les rênes, et il est chasseur de primes maintenant pour les monstres que la police peut pas arrêter.
Oh. Oui, mais
ça pourrait être un one-shot, quoi.
On en a eu des trucs comme ça, où il n'y avait pas vraiment de cliffhanger... alors que c'était un numéro 1. Là, j'ai plus l'exemple en tête, mais il y en avait eu un récemment
chez
Marvel.
Black Widow, il n'y avait pas de cliffhanger non plus. Et ça m'avait dérangé.
Mais c'était pas celui-là, parce que je l'avais pas lu, en l'occurrence, mais j'en ai lu un.
Il
n'y
avait pas de cliffhanger non plus, ouais, effectivement.
Enfin bref. Enfin, ça arrive, et
mais
bon...
Ça, moi, ça m'a pas gêné qu'il n'y ait pas de cliffhanger, mais c'est juste que ça...
Ah bah, je demande pas le cliffhanger de ouf
pas
avec...
original, je trouve.
Je demande pas le cliffhanger de ouf avec genre la terre qui va être détruite, mais quelque chose qui te donne l'idée d'un fil rouge. Parce que là, moi, j'en vois pas de fil rouge non plus. Hein.
Mmh.
C'est toutes ces raisons-là qui font que pour moi, en tout cas, ce Savage Dragon 193, c'est un pass. Et pourtant, j'aime pas. J'adore Eric Larsen, j'adore le fait qu'il continue sa série, mais il y a peut-être un moment où il faut s'arrêter, en fait.
Moi, ce sera un petit check-it.
Ouais, bah moi ce sera un petit check-it aussi, enfin un check-it, ouais. Voilà. Je vais lui laisser le bénéfice du doute.
On va maintenant passer à notre partie Marvel et on va parler de la nouvelle sortie de la semaine. C'est la nouvelle série New Warriors, c'est Mister Anebony qui nous en parle.
Alors, on retrouve Christopher Yost en tant que scénariste et Marc Husto au dessin avec une colorisation de David Curiel. Donc, c'est la reformation de ce groupe, les New Warriors, qu'on n'avait pas vu depuis un moment, en tout cas en équipe. Et donc, on retrouve dès les premières pages Speedball et Evans, donc Justice, hein, je crois que
ouais,
c'est
ça.
Son
Justice.
Voilà. Donc, qu'on avait pu voir récemment dans Nova, par exemple, toujours aussi jeune, je trouve. Enfin, peut-être un peu moins, légèrement un peu moins que dans les pages de Nova, mais ils font toujours très jeunes par rapport à ce qu'ils sont censés avoir vécu déjà. Et au fait, durant tout l'épisode, on va voir un petit peu les membres de cette future équipe de manière séparée, c'est-à-dire que déjà on a donc Justice et Nova et Speedball. Ensuite, on retrouve Scarlet Spider justement et Araceli qu'on a pu voir dans les pages de Scarlet Spider. De toute façon, Chris Yost réutilise donc du coup ces personnages et tant mieux. Moi, ça m'a fait plaisir de les retrouver du coup.
C'était la partie la mieux écrite, honnêtement.
Ouais, c'était la plus intéressante et la plus marrante, on va dire. Moi, j'aime bien le comportement de Scarlet Spider. Et puis alors, sinon, on retrouve cette héroïne que je ne connais pas ou alors j'ai complètement oublié. Sun Girl. Donc, est-ce qu'elle faisait partie de l'ancienne mouture des New Warriors?
Non, du tout.
D'accord. C'est un nouveau personnage, quoi.
Sunfire, Sunspot, Sun Girl, putain.
Je sais pas si c'est un nouveau personnage, mais en tout cas, elle ne faisait pas partie des New Warriors avant.
Ok, bon, elle me dit rien du tout. Pareil, elle est en patrouille, il se passe un truc bizarre, enfin voilà, donc ils vont intervenir. On sait pas trop où ça va, tout ça. Et Chris Yost nous ressort... Au fait, un élément surtout qu'il avait mis en place sur un arc des X-Men, alors la série 3 X-Men, celle qui avait été lancée avec les vampires, il avait fait un moment un arc avec, voilà, bon, je vais pas révéler qui c'est, mais
bah,
en tout cas, il avait.
C'est dès la première page, on voit qu'il... enfin. Ouais, peut-être que certaines personnes n'ont pas reconnu, ouais, sur la première page, c'est vrai.
Voilà, donc bon, on le dira peut-être plus tard si on parle du second numéro, mais en tout cas il replace ces individus. Alors c'était pas une menace extraordinaire et puis surtout c'est un arc un petit peu obscur, donc je suis pas particulièrement fan des auteurs qui replacent un peu leurs idées qu'ils ont eues sur d'autres séries comme ça. Enfin c'est voilà, ça va être, je sais pas qui ça va intéresser concrètement. Bon.
Bah, on a deux menaces en place. Il y a celle-ci dont tu parles et celle qui va se trouver face à Kane et à Araceli, qui bien sûr a trait avec quelqu'un qui aurait pour nom de famille Namora, comme par hasard.
Ouais. Bah, Ouais, enfin, moi j'ai trouvé ça assez brouillon en fait, ce premier épisode. Je sais que t'as pas du tout aimé, toi, mais.
Non, mais ça porte le nom de New Warriors, mais ça n'a pas du tout ni la saveur, ni quoi que ce soit. Une caractérisation de merde sur des personnages qui avaient nettement évolué. Le problème, c'est qu'on continue de camper les New Warriors dans un rôle d'enfant.
Ouais.
Putain, mais
Carrément.
merde, quoi. Speedball, c'est devenu Peanuts, quoi. Je veux dire, le mec
Oui.
a évolué, putain.
Non, mais là clairement, c'est un retour en arrière. C'est une espèce de reboot de la franchise où ils vont faire de cette équipe l'équipe jeune par excellence.
Mais ouais, Justice a quand même eu énormément d'aventures qui sont passées. Il a été un Avenger, il a été un prof à l'Avengers,
Ouais.
pas l'Avengers Academy, de l'Avengers Initiative. Il a ensuite été contre eux, mais enfin, je veux dire, c'était des personnages qui étaient devenus beaucoup plus sombres. Et là, tout est joyeux, tout est beau. All New Marvel Now, quoi. Décevant.
Ouais, moi j'ai trouvé ça hyper plat. Alors c'est joli, franchement les dessins c'est vraiment très correct. Marcus Tau, c'est très bien. Mais ça, enfin ils se servent pas de ces beaux dessins pour faire une histoire intéressante. C'est plat, c'est une présentation des persos très simpliste où en fait on a des petites scénettes dans lesquelles on les voit apparaître un à un et on voit qu'ils sont tous confrontés à la même menace à peu près. Et voilà, donc il y a des textes un petit peu qui sont censés faire dans l'humour, dans le jeunisme, un petit peu avec des dialogues très hipster, très jeunes, mais je trouvais ça un peu raté. Oui, alors il y a quand même quelques petites références, par exemple à Civil War, ces choses-là, donc ça c'est le truc qu'on s'y attendait, qu'ils allaient en parler, mais on sent pas vraiment un début qui donne envie de voir la suite, quoi. Ça, c'est moi franchement pour l'instant je trouve que c'est le numéro 1 et point one le plus plat et le plus faible du All New Marvel Now.
Ce qui me dérange, c'est que la première série, celle des années 90, alors oui, on était dans les années 90, on était dans un ton sombre, etc. Mais on s'intéressait à une équipe de jeunes qui était beaucoup plus sombre et beaucoup plus torturée que ces mecs-là d'aujourd'hui qui sont censés être plus vieux, avoir vécu des choses beaucoup plus dures. C'est quand même
Ouais.
aberrant. Fabian Nicieza était au scénario, Marc Bagley au dessin, bah putain, qu'est-ce que je regrette ce temps-là, quoi.
Ouais, mais enfin bon, là c'est clairement une toute autre direction, un tout autre ton qu'on donne à la série. C'est vraiment, enfin, c'est parallèle à la série Nova, qui a plus du tout le même ton non plus. C'est bon, voilà, c'est clairement pour un autre public, un autre lectorat. Voilà,
Flo,
faut accepter ça,
alors
sinon.
j'ai vraiment rien de plus à dire que Bruno. J'ai trouvé pareil, c'est plat, c'est ultra classique dans la mise en place, les petites scénettes qui présentent les persos. Oh, ça n'a, y a aucune étincelle quoi. C'est pas moche, plutôt joli, mais alors ça m'a pas du tout intéressé, mais pas du tout, du tout, du tout.
Puis bon, si ce n'avait pas été encore clair vis-à-vis de nos reviews, point d'équipe hein, dans cet épisode.
Non,
Ils
non,
sont
pour le
encore tous
moment.
séparés, hein.
Oui, puis non, mais enfin vraiment, vraiment, oui, vraiment. Je veux
Enfin,
dire, je vais pas voir la suite de ce truc-là. Vraiment, ça n'a
ça arrive
aucun
souvent par
intérêt.
contre, hein, récemment.
Ouais, on a le cas Mighty Avengers, mais c'était beaucoup plus sympa.
Ouais.
Bah, écoute, moi j'ai limite préféré celui-là. Je
Ah bon?
sais pas,
Putain.
Mighty Avengers, ça m'a pas du tout intéressé. Là, il y a quand même ce cliff, donc avec ces personnages, j'attends de voir ce qu'il va faire avec ça, quoi.
Moi,
Ouais, mais c'est
c'est
pas.
guère que le grand vilain qui m'ira faire voir le 2 et parce que ça s'appelle New Warriors, c'est tout, hein, mais
Ouais, mais c'est un grand vilain qu'on a vu récemment dans Avengers et tout. Enfin, c'est hyper, c'est pas très original, quoi.
Oui, mais c'est un grand vilain qui est très classique dans l'univers Marvel, donc j'ai envie d'aller voir où ça va. Au moins, juste pour ce grand vilain, j'irai voir le 2. Après, je sais pas si j'irai voir le 3.
Ouais, moi c'est un gros pass quoi.
Moi, c'est un pass. Moi, c'est un pass aussi.
Moi
Moi,
c'est
c'est
un
un pass.
pass, enfin pas gros pass, mais c'est un pass, pas d'intérêt.
Oh non, bah moi c'est un ouais, moi c'est un check-it. Voilà.
Moi, c'est un check-it, moi. Malheureusement. À la limite du pass, quoi. Tu vas continuer, Benny, puisque tu vas nous parler, dans la même veine du Nova numéro 13.now.
Oui, alors donc du coup Nova, on retrouve ce nouveau scénariste Gary Dugan, qui je crois commence là, hein, avec ce Point Now, si je dis pas de bêtises,
Non,
ou
je
bien
crois
alors il
qu'il
y en
était
avait
arrivé
déjà.
au
Le
la Media Call, il en
numéro
avait
100, je crois.
Il est arrivé au
Enfin,
numéro
entre
11
guillemets.
même.
J'ai
Il
dit
avait fait.
Gary, c'est Gary, hein, Gary Dugan, avec toujours au dessin Paco Medina. Donc bon bah graphiquement, moi j'aime bien, mais toujours avec ce côté très 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 jeune en fait, des protagonistes. Enfin là encore c'est pas dérangeant puisqu'on retrouve que Nova, donc le nouveau Nova, Alexander, Max Alexander.
Sam.
Oula, Sam Alexander, Sam. Voilà. Pff, en plus c'est simple. Mais donc bah là au fait c'est un épisode. Bah, pff, pointe Nao, je trouvais ça un petit peu exagéré parce qu'au fait ça aurait pu être un épisode classique du titre. Je vois pas en quoi ça te présente vraiment le personnage de Nova.
C'est le début d'un arc, c'est tout.
Oui, voilà, c'est le début d'un arc, clairement. Donc, au fait, Beta Ray Bill débarque. Et alors, classique chez Marvel, il débarque parce que Nova fait quelque chose, que Beta Ray Bill, enfin, Beta Ray Bill veut s'assurer que Nova n'a pas fait ce dont il est accusé sciemment et que, au fait, il y a un malentendu. Les deux héros se battent, enfin voilà, et puis ils se rendent compte que finalement ils sont du même bord et ils décident de partir ensemble dans l'espace affronter le grand méchant. Bon. Pff, c'est classique, c'est pas spécialement drôle. Non, franchement, c'est vraiment un titre qui, au début, m'avait vachement emballé par son côté frais et fun. Et là, bah y a pas grand-chose à en dire, quoi. C'est vraiment pour un très jeune public, je trouve. J'ai l'impression que New Warriors et ça s'adresse essentiellement, voilà, aux jeunes lecteurs Marvel de Marvel Now. Bon, c'est voilà.
Là, j'avais envie d'aller voir moi à cause de Beta Ray Bill, mais je me suis dit non, Sam Alexander, je peux décidément vraiment pas quoi.
Ouais.
Et New Warriors 1 m'a confirmé que je peux pas ce personnage. Hein. C'est incroyable.
Non, bah écoute, moi ça m'a pas du tout intéressé, ça m'a pas du tout captivé. J'ai pratiquement envie de dire que c'est un pass quoi. C'est,
allez,
vraiment.
C'est la bonne semaine hein, pour les Big Two ouais. Quand même. Flo, vas-tu relever le niveau avec la fin de Daredevil, le fameux numéro 36?
Et oui, fin du run, juste avant, enfin, 2 mois avant le relaunch, un mois même avant le relaunch de, toujours par Mark Waid.
Il y a donc, Flo qui lit des bons trucs cette semaine chez les Big Two, en fait.
Donc, Mark Waid et Chris Samnee, storyteller, évidemment, colorisé par Javier Rodriguez. C'est donc la fin de l'arc sur les Sons of Serpent. Cette secte suprémaciste blanc, décidément je suis abonné aux suprémacistes blancs dans mes reviews.
Oui, Flo, dans tes reviews seulement.
Qui avait infiltré la police et la justice de New York. Donc ils avaient des juges, des flics, etc. qui étaient des racistes suprémacistes et pour la corrompre totalement. Et dans la fin du numéro précédent, il y avait un énorme cliff qui était que, spoiler, Matt Murdock, c'est Daredevil. Eh oui, désolé, vous le savez maintenant.
Putain, non, mais merde, j'avais pas encore le temps de rattraper, j'étais
pas sûr. Il était appelé comme témoin.
Oh putain,
mais
moi je lis plus cette série, j'en ai marre.
Il était appelé comme témoin et il a révélé devant toute la cour qu'il est Daredevil. Et en gros, c'est un plan pour contrer le fait que en gros le grand méchant des Sons of Serpent voulait le faire un chantage, le faire chanter pour qu'il révèle son identité. Et quel est le meilleur moyen de rendre un chantage nul et non avenu? C'est de rendre l'objet du chantage sans aucune valeur. Donc il a décidé de prendre les devants et justement de c'est un plan à la Daredevil, c'est un plan à la Matt Murdock, couillu, osé, un peu casse-gueule, on sait pas trop où il va, et il y aura certainement des conséquences à la fin, mais bon, c'est la seule solution. Donc, en cela, Mark Waid connaît très très bien son personnage, et ça, j'ai trouvé ça une réaction naturelle et un plan tout à fait naturel pour Matt Murdock. Et, en somme, un numéro plein d'action, qui se passe essentiellement dans le tribunal. Ou du coup les
c'est comment c'est antinomique ce que tu es en train de dire.
oui mais pourtant ou du coup complètement décontenancés les serpents vont se mettre à l'attaque quoi, ils sauront plus comment réagir et voilà, on va voir comment il va s'en sortir. Évidemment cette décision de Matt Murdock aura deux grosses conséquences et un tournant majeur dans la carrière dans sa carrière d'avocat et dans sa carrière de héros. Et je vous révèle pas la fin, même si ça a été révélé dans des sollicitations et dans les news, on en avait parlé, mais je vais pas vous en parler là pour pas vous spoiler si vous savez pas. Très bonne conclusion d'arc. C'est pas vraiment une conclusion de série, c'est un changement de statu quo pour le personnage, voilà. Après bon, on connaît nos avis respectifs sur les relaunchs de Marvel. Pour moi, il n'y avait pas besoin de relauncher, mais bon, voilà. Mais c'est une très, c'est toujours très bon et bonne conclusion d'arc. Très content, très très satisfait de Mark Waid dessus. Là, il a retrouvé toute la vigueur de qu'il avait un peu perdu ces derniers numéros sur la caractérisation de Matt Murdock et sur l'action et le storytelling de Chris Samnee qui est toujours excellent.
Tout donc comme toi, je pense que j'aurais préféré lire un numéro 37 qu'un numéro 1, quoi. Surtout l'appeler All New Daredevil, quoi.
Ouais, c'est con. C'est vraiment con. Parce qu'en plus, voilà, c'est bien qu'une série continue avec ses numéros et que ça avance. En plus, bon, c'est pas une série qui vend des masses, mais qui a toujours un accueil critique. Alors, je pense qu'ils ont essayé de booster un peu les ventes avec un numéro 1, mais c'est, bon, c'est toujours artificiel. Enfin bref, on connaît nos habitudes.
Sachant que nous aurons un relaunch en 2015, clairement, puisque nouvelle série, notamment sur Netflix, clairement, il y aura un relaunch. Là, on peut d'ores et déjà le prévoir, celui-ci.
Ouais, c'est probable. Donc voilà, très bon bail pour moi. Et bah, si vous lisez pas Daredevil, avec tout le bien qu'on vous en dit, vous avez raté votre vie, je pense.
Bah, si vous lisez pas Daredevil, je crois que le mois prochain, c'est bon pour vous y mettre.
Oui.
Prenez pas le 36.
De toute façon, c'est soit ça, soit la Rolex. Donc bon, vous faites mieux de vous mettre à Daredevil.
Oui, mais mettez-vous-y, c'est vraiment bien.
On continue avec Bruno, qui va nous parler du troisième épisode de Avengers World.
Oui, alors Avengers World, c'est toujours écrit par Jonathan Hickman et par Nick Spencer, donc avec des dessins de Stefano Caselli. Et donc on va suivre dans cette troisième partie un combat, en fait, entre Shang-Chi et Gorgon, qui se passe justement sur l'île de Madripoor, qui maintenant se retrouve sur la tête d'un dragon géant. Voilà, donc c'est un petit peu what the fuck. Et c'est un numéro concept, hein. C'est vraiment un combat kung-fu versus mec hyper balèze avec son épée et qui est capable de transformer les gens en pierre. C'est très joli ce que fait Stefano Caselli, mais il y a même de bonnes idées aussi par rapport à Shang-Chi, par rapport à ses pouvoirs, par rapport à ses comment il arrive à essayer de le contrer. Il y a une finalité que j'ai trouvée assez bonne. Mais ça n'avance pas trop. Et il y a ce côté où en fait on a eu ce premier numéro qui était vraiment, enfin moi que j'avais trouvé très prenant parce que il nous permettait d'aller un petit peu aux quatre coins du monde et de voir les Avengers. Déjà dans le deuxième, ça s'était ralenti, on n'était que sur Smasher. C'était bien écrit, mais c'était un peu lent. Là, c'est vraiment
non, c'était
Shang-Chi.
Nul.
Ouais, si moi je l'ai lu après, j'ai trouvé pas mal. Mais celui-là, c'est un bel exercice de style, c'est un beau combat, mais je pense que c'est une série qui s'appréciera mieux en TP qu'en single, parce que là, sinon, ça fait vraiment pas du tout avancer le schmilblick.
C'est une série qui s'appréciera mieux à la poubelle.
Oh, peut-être pas quand même. Non, parce qu'il y a de bonnes choses, et on a droit à un beau combat. Et Gorgon, c'est un personnage intéressant, et voilà. Mais j'aurais espéré mieux, et au niveau de la narration, j'aurais espéré voilà qu'on puisse faire un petit peu des sauts aux différents endroits, que ce soit un peu plus rythmé, un petit peu mieux dosé.
Bah, tu peux le dire clairement, cette série n'est pas du tout ce qu'on attendait au départ, ce qui nous avait été vraiment teasé dès le départ, et c'est décevant.
Ouais. Donc alors est-ce que on a pu voir dans les sollicitations du mois de mai que Jonathan Hickman allait laisser le titre à Nick Spencer par la suite, donc peut-être que Nick Spencer aura les coups des franches pour vraiment emmener le titre peut-être ailleurs, mais en attendant ce premier arc, j'ai peur qu'il soit un petit peu anticlimactique. Mais...
En plus, Jonathan Hickman se barre, donc ça veut bien dire que c'est vraiment pas bon.
Ouais,
ça n'avait pas du tout été vendu comme ça au départ, la série.
Non, mais ça me rappelle
vraiment Avengers Assemble avec Bendis qui avait lancé le truc, et puis ensuite il s'est barré, puis ensuite c'est devenu une série tout à fait dispensable, et puis je pense qu'elle va disparaître, Avengers Assemble.
Ça fait aussi penser à Secret Warriors, hein, avec Bendis au départ, et puis après c'était Hickman qui avait pris le truc. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup
Ouais, mais Secret Warriors était bien, quoi.
Ouais, mais justement là, je pense que c'est une suite un petit peu logique de Secret Warriors.
Mais c'était pas
on y retrouve
Bendis,
certains méchants.
Hein. Si.
C'est Bendis qui avait introduit le concept dans Secret Invasion.
Ouais. Et après c'est Hickman qui a repris le truc. Mais voilà, c'est correct, mais c'est pas non plus renversant, donc pour moi c'est un check-it.
OK. La suite ce sera pas meilleur en tout cas que ce que tu as dit, c'est le Amazing X-Men numéro 4, scénarisé par Jason Aaron avec des dessins d'Ed McGuinness ancrés par Dexter Vines. On est à la partie 4 sur 5 du premier arc qui est la quête de Nightcrawler, et c'est un épisode qui est franchement dispensable. On aurait pu faire un arc en 4 parties et non pas en 5, parce qu'il se passe vraiment rien dans cet épisode. En gros, les personnages qui étaient tous séparés vont se retrouver pour le final. Ultra, ultra, ultra classique. On apprend, il y a juste quelques petites choses qui nous sont apprises sur ce que sont ces petits bamfs. Mais il n'y a que ça.
Ouais, C'est le seul passage intéressant et d'ailleurs assez dégueu.
Ouais.
On voit d'où ils viennent. Bon, c'est assez dégueu et c'est le seul passage intéressant. Sinon, c'est vrai que c'est.
Trois pages d'intéressantes, enfin de vraiment intéressantes pour l'histoire. Le reste est sympa. Enfin, je veux dire, c'est quand même bien écrit, ça se laisse lire, mais c'est longué, quoi.
Ouais, j'ai toujours un peu de mal avec la narration de Jason Aaron depuis quelques temps, parce qu'elle est pas très fluide en fait. Il y a de grosses bulles de texte et c'est assez laborieux d'avancer. C'est pas un page turner quoi. Mais bon.
Mention spéciale au passage dans la neige. Hein. Qui sont les passages les plus chiants.
Ah oui, c'est chiant, c'est vraiment chiant. En plus, ça sert à rien, vu que, bon, bah voilà, ça sert à rien. C'est vraiment, c'est un épisode qui sert à rien.
Moi, j'aurais appris l'expression, c'est pas un patch turner. Je vais la ressortir, celle-là.
Mais franchement, puis alors, je sais pas ce que tu en penses, Flo. Alors, moi, que c'était dit, je me rappelle plus au premier épisode, j'ai pas été revérifié, mais clairement, pour moi, Wolverine a encore son facteur auto-guérisseur dans cet épisode.
Oh bah oui, sinon, il serait plus mal en point que ça.
Donc ouais, bon, bien raccord quoi, c'est cool. Passe. Non, check it moi juste pour cette révélation, allez. Check it
ouais,
moi
c'est un check it parce que ça se lit toujours un petit peu à peu près bien. J'aime bien le personnage de Kurt Wagner quoi. Enfin, c'est un super perso. Il y a deux trois petits passages bien. Mais et puis c'est joli quand même.
Ouais,
c'est joli.
Fin... Autre mention spéciale à l'idée de merde hein, d'essayer de faire voyager Beast en téléportation alors qu'il suffisait simplement, ce que Roro disait trois pages précédemment, de lui enlever l'épée.
Oui, ça c'est un peu débile.
Non mais...
Oui c'est vrai, c'est pas con.
Disons que j'ai vraiment l'impression que cet épisode a été fait pour rallonger quoi. On sentait vraiment que c'était pour rétirer en longueur le plus possible.
Oui, c'est vrai, je suis d'accord.
C'est ça qui est dérangeant pour moi en fait, mais...
Ouais, c'est un check-it.
Eh bien, quelle très bonne semaine pour ces bitous. J'espère que génial. Tu vas relever le niveau pour cette dernière review, Bruno, parce que franchement, clairement,
on
a quand même été
lu des trucs
sacrément
bien, en fait.
Mauvais.
Hein. Non, j'ai lu un truc bien chez Marvel, c'est le Punisher numéro 2, par Nathan Edmondson et par Mick Gerards. Au dessin, je crois que c'est Mick. Voilà. On suit toujours ce Punisher qui en fait est à la poursuite d'un gang qui s'appelle les Dos Soles il les a poursuivis jusque sur la côte ouest et il essaye un petit peu de les arrêter. C'est un gros gang de trafiquants de drogue
vite, hein.
Et trafiquants d'armes. Quoi?
Les Dos Soles, ils vont pas très vite. Hein.
Non, voilà, c'est clair. mais pourtant, ils sont assez puissants. Ils ont des armements assez balèzes, il y a même carrément l'IM qui leur fournit des armes. Donc là, on suit Frank dans sa croisade, et on a appris à la fin du dernier numéro qu'en fait, il avait des gens qui étaient à sa poursuite pour l'éliminer, et c'est les Howling Commandos qui ont été envoyés par le gouvernement pour l'exterminer. Donc une nouvelle équipe des Howling Commandos, dont on ne connaît pas encore la composition exacte, mais ils sont hyper bien équipés eux aussi, donc je pense que le Punisher va avoir un petit peu de mal avec eux.
On va avoir une version jeune de Dum-Dum Dugan avec la version jeune de Nick Fury. Et...
peut-être, ou peut-être qu'on retrouvera le vrai Nick Fury, je ne sais pas, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Donc voilà, et sinon c'est vraiment bien écrit, il y a de bonnes scènes d'action, et en fait ce gang a l'air d'avoir... obtenu l'aide d'un super vilain à pouvoir. Donc le Punisher ne va pas être juste face à des mafieux et un gang, il va aussi être face à un super vilain un petit peu inattendu sur la côte ouest des États-Unis. Et voilà, il y a une bonne petite surprise.
Le Caïd.
Hein, comment? T'as dit qui?
Le Caïd. Non,
non, c'est pas le Caïd. Mais il y a une bonne petite surprise à la fin, même si, enfin, on se doute parce qu'il y a pas mal d'indices... le long du comics, mais donc voilà, non, c'est cool parce que...
Attends, laisse-moi faire un wild guess, c'est Ultron comme Moon Knight quand il est parti sur la côte ouest.
Non, c'est pas Ultron.
Oui, la côte ouest, ouais.
C'est pas
Ultron. C'est Kang, c'est Apocalypse.
Bon, on va tout faire les épisodes.
Bon, franchement, vous regardez la cover et voilà, vous aurez trouvé. Donc c'est pas très compliqué. Mais voilà, ça se lit bien, c'est bien écrit, il tient bien son Punisher. Il y a toujours ces scènes sympathiques dans le bar avec le gars qui tient le bar et puis la policière. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce titre et il me tarde de lire la suite. Donc pour moi, c'est un bail.
Oh putain, comme par hasard, c'est bon. Je viens d'aller voir la dernière page, ouais. D'accord, super.
Je sais pas, moi j'ai même pas regardé la couverture. Donc.
Alors là, franchement, dans le genre... Enfin non, genre, je vais rien dire parce que je vais donner trop d'indices. C'est, non, c'est bon, ça le donne de m'énerver.
Donne l'indice qu'on voit sur la couverture, parce que Bruno disait qu'il y avait un indice sur la couverture.
Ah, sur la couverture, il y a un éclair, voilà, tout simplement.
D'accord.
Non mais c'est tout.
Météo Master, mais... c'est le mec qui existe même pas.
Alain Gilot-Pétré. donc tu as dit, Bruno, ta note,
un bail.
Eh ben c'était une bonne semaine. Hein. Ouf.
Ah, il y avait des très bonnes choses en indépendant.
Ouais, bah peut-être que vous pourrez dépenser votre argent dans les TP, puisque sort cette semaine chez DC le premier TP de Batman Lille Gotham, une série de Derek Friedels et Dustin Nguyen, avec des versions plus jeunes de tous les personnages de l'univers Batman. Très très bonne série, très drôle.
Oui, très sympa. C'est pas très cher, c'est $13.
$13, ouais. C'est une série qui sortait d'abord en digital, qui a été ensuite collectée en numéro papier, et là vous avez les 6 premiers épisodes papier collectés dans ce TP.
C'est très mignon.
Chez Vertigo maintenant, la nouvelle série de Vertigo sort son premier TP, FBP, Federal Bureau of Physics, une série dont Flo nous dit toujours beaucoup de bien.
Oui, très sympa, très sympa. Et la lecture sera plus plaisante en TP, donc je vous conseille de l'acheter, parce que c'est un petit peu long.
Mais, en plus, c'est vraiment, vraiment pas cher. 7 épisodes pour $10.
Ouais, oui, même modèle
oui,
pour Image.
Il pique les idées à Image, il commence à sortir les TP très rapidement, Vertigo. Vraiment très vite, parce que là, on en est au 7e numéro, je crois. Et donc, très, 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 très bonne idée. C'est bien. Ils sortent les trucs très vite.
C'est une série où il y a beaucoup de lectures, pour $10 seulement, donc en termes d'investissement de temps par rapport à l'argent dépensé.
Non mais bravo,
vous serez servi.
Ils mettent les moyens pour justement relancer le truc, donc c'est très bien.
Toujours chez Vertigo, la ressortie cette fois-ci en souple de We Three, la nouvelle édition qui était sortie en édition de luxe en hardcover il y a de ça quelques mois, ressort donc en version souple au prix de $15. Si vous n'avez pas cette série, si vous ne la connaissez pas, bah c'est peut-être quelque chose à découvrir du Grant Morrison et Frank Whiteley ensemble sur ces trois animaux qui ont été modifiés génétiquement pour faire des expériences pour l'armée.
Graphiquement incroyable. Je dirais, lisez-le, c'est génial. Moi, j'ai adoré cette mini.
Et Benny va nous dire qu'il l'a détesté.
Non, je dirais juste waf waf. Voilà, spécial.
Alors, graphiquement, c'est une vraie prouesse.
Non, c'est très bon. C'est très bon. Je l'avais pris en français. Moi, je sais plus. Je crois que c'était Urban qui l'avait ressorti.
Ouais,
c'est
Urban. Ressorti ouais, chez Urban aussi. Il y a 2 ans.
Dernière sortie de chez DC ce mois-ci, pour ceux qui ont envie de relire du vieux, qui n'apprécieraient peut-être pas la caractérisation du Martian Manhunter d'aujourd'hui, eh bien du vieux, Martian Manhunter ressort, ça s'appelle Martian Manhunter Son of Mars, c'est un TPB à $20, où vous retrouvez les numéros 0 à 9 de la série de 1998, écrite par John Ostrander avec des dessins de Tom Mandrake. Chez Dynamite maintenant, nous avons la sortie du premier TP de Red Sonja version Gail Simone, avec Walter Giovanni et Jenny Friesen au dessin. Ouais. C'est au prix de $20.
Et c'est très sympa.
Toujours chez Dynamite, la sortie de Shadow Master Series, qui va reprendre des vieux épisodes de la série Shadow qui était paru chez DC en 1987, les 6 premiers épisodes, avec Andrew Helfer au scénario et Bill Sienkiewicz au dessin. C'est au prix de $25. Donc Dynamite qui a récupéré les droits de DC pour ressortir ça en TPB. Plutôt sympa parce que c'est des trucs qui sont un peu durs à trouver aujourd'hui. Et enfin, chez Dynamite, pour terminer, vous avez Vampirella The Essential Warren Years. Alors on avait parlé de recueil de couverture de l'époque Warren de Vampirella qui était sorti il y a de ça quelques semaines. Et bien là, c'est un espèce de gros omnibus de 450 pages au prix de $25 qui va reprendre toutes les histoires parues entre 1969 et 74. Et donc là, vous avez l'équivalent de 37 épisodes. Alors sachant que dans le magazine Vampirella, il n'y avait pas que des histoires de Vampirella dedans. Là, ça reprend toutes les histoires de Vampirella dans ce gros bouquin de 450 pages. On retrouve notamment du Archie Goodwin, entre autres, du José González, etc. Steven Gellhardt, plein de monde. Et du gros nom, surtout à l'époque. Donc si vous avez envie de découvrir du vieux et un petit peu sexy quand même pour l'époque, le Vampirella de l'époque, bah jetez-vous dessus, c'est pas très cher hein, pour le nombre de pages des omnibus à 450 pages pour $25, c'est pas tous les jours que ça tombe. Chez Image maintenant, la sortie du premier TP de Zéro, au prix de 10$.
Pas cher, très bonne série. Allez-y.
Série de Alex Scott avec des dessins de Michael Walsh qui dessine aussi la série X-Files. 5 premiers épisodes pour 10$. Jetez-vous dessus une bonne petite série espionnage action moderne. Voilà.
Il y a 5 dessinateurs différents puisque chaque numéro est dessiné par un artiste différent. Michael Walsh faisait le premier, effectivement.
Oui, c'est vrai. On a aussi du Tradmour, du Matteo Santoluco, Morgan Yeske, Will Tempest, Jordi Belair, qui est à la colorisation, bien sûr, et qui rend ce titre aussi graphiquement très reconnaissable.
Ouais.
Chez Marvel, maintenant, nous avons un seul gros tome, enfin non, deux gros tomes, je dis des bêtises. Pour ceux qui voudraient relire le Journey to Mystery version Kieron Gillen avec ce Loki jeune au sortir de Fear Itself, eh bien Marvel les ressort en complete edition, 35$, avec les épisodes 622 à 636 ainsi que le 626.1.
Ouais, très bonne idée, c'est complete collection et c'est idéal pour découvrir qui est vraiment Loki actuellement.
Ouais. Puis en plus, c'était une très très bonne série. Enfin, moi, perso, j'avais beaucoup apprécié ce qu'avait fait Kieron Gillen sur le titre. Et enfin, un gros omnibus qui, au prix de $125, omnibus, on va dire luxueux, puisqu'il y a seulement 12 épisodes, mais ce sont des gros épisodes de l'époque, c'est le Golden Age Captain America Omnibus, avec donc, comme je disais, les 12 premiers épisodes de la série Captain America de 1941. Voilà.
Ah, intéressant.
Donc Simon, Joe Simon.
Oui.
Et Kirby, non.
C'est ça.
Et Kirby.
Non.
Ouais.
Simon ouais. Et Kirby.
Pour ceux qui ont envie de découvrir le Captain America original, donc comme je dis, collection très luxueuse, un peu cher cependant, $125, c'est un peu cher pour.
Oui.
Bon voilà, c'est du gros matos quoi. Pour les fans vraiment de Golden Age pur, comme son nom l'indique, hein, de toute façon. Voilà, c'est tout pour les TP de cette semaine, c'est tout pour cette émission qui était malheureusement en termes de sortie un peu morose.
Ouais, petite semaine.
Petite semaine.
Avec quelques perles, quand même.
Il en faut.
Heureusement qu'il y a Valiant, quoi.
Bah, heureusement qu'il y a l'indé, en fait.
Heureusement qu'il y a Boom.
Ouais. Heureusement qu'il y a New Warriors numéro 1.
Et non mais c'est vrai qu'il y a des semaines comme ça où pourtant je me suis dit bon c'est peut-être moi qui suis un peu fatigué, qui suis un peu voilà un petit peu aigri, mais en fait je me rends compte que non, puisque vous aviez à peu près les mêmes avis, donc ça me rassure d'un côté. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour j'espère
des reviews manga et franco-belge pour changer, pour lire des bons trucs.
Des reviews plus enjouées, en tout cas avec du matos qui soit plus intéressant à chroniquer. Pas que c'est pas intéressant à chroniquer, c'est aussi intéressant de dire du mal des choses quand elles sont mauvaises au départ, pour essayer d'aiguiller vos choix aussi d'acheteurs tout simplement. Parce que c'est aussi à ça que sert cette émission, à vous aiguiller dans vos choix et vous éviter de dépenser de l'argent bêtement sur des produits qui ne mériteraient pas votre argent.
Ouais, donc pas comme nous en fait.
Voilà, voilà, nous testons pour vous.
Vous apprenez de nos erreurs.
On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, vous nous suivez sur Facebook, sur Twitter, @ComicCity. Vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr et retrouver tous les anciens épisodes sur le site ou sur iTunes. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ciao, ciao. And you're heading